vivez un ramadan gourmand avec le renard. Semoule, couscous et préparation prête à l'emploi. Le renard, numéro 1 par tradition.
18h, 19h, chacun son tour avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans Chacun son tour. Et c'est la dernière de la semaine, mais pas la dernière du ramadan, puisqu'on se retrouvera encore lundi et mardi. Mais bon, on approche du bout de la route, mon cher Nabil.
Et tout à fait, tout à fait. On approche du bout de la route, malheureusement. Et vous savez que ça m'attriste, hein, Manu. Hein.
Bah oui, plus ça
m'attriste. Je prends des derniers clichés de. Là, on ne me voit pas, mais je prends les derniers clichés, effectivement,
du studio.
Voilà, c'est une belle ambiance.
Non, mais vous allez revenir avant le prochain ramadan. Vous viendrez me voir samedi dessus de table avec Philippe.
Il y aura bien un petit légume ou un produit de saison là qui va sortir avec une recette un peu saugrenue que vous demanderez.
Vous venez quand vous voulez. Vous voulez parler d'un truc, vous venez. Vous êtes chez vous. Vous savez bien.
Merci beaucoup.
Alors, mais bon, là, pendant tout le ramadan, c'est les recettes anti-gaspi et express.
Ouais.
Chef Enzem.
En fait, là, pendant le ramadan, c'était pas forcément que dédié au ramadan. J'avais envie de donner aussi des tips pour toute l'année. C'est-à-dire, l'anti-gaspi, c'est pour toute l'année. Le petit tour du monde des recettes, c'est un peu aussi pour toute l'année. Donc, le but était aussi de profiter de cet instant pour vous donner des choses de moi, de mon quotidien. Des choses qui peuvent vous aider, qui vous aideront à faire des économies, à trouver des nouvelles saveurs, à avoir des nouvelles approches. Donc, ça, c'était le truc le plus important pour moi. Et aujourd'hui, on a lancé le jingle, au fait, ou pas ?
Non, mais c'est quand vous voulez.
Jingle ?
Le Ftour Express du chef Enzem.
Bah voilà, on est mieux là.
On est mieux, mais imaginez qu'on l'ait lancé et qu'on ait oublié tous les deux. Là, c'est plus du jeune qu'on est en train de faire.
Carrément.
Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui va vous surprendre. Qui va vous surprendre toutes et tous, parce que c'est quelque chose que 99% de la population
jette à la poubelle.
Jette, ou donne aux poules, ou aux lapins, s'ils en ont. C'est le chou-fleur, tout le monde aime ça. On n'est pas autant.
Mais il y a même des poules et des lapins qui le jettent aussi.
Non.
C'est dire si c'est recyclage. Non,
c'est vrai que c'est quelque chose dont ils raffolent. Et ben nous aussi, les humains, on en raffole. C'est le chou-fleur. Et le chou-fleur, quand vous l'achetez, je n'ai jamais vu un chou-fleur qui était vendu sans ces grosses feuilles vertes autour. Ouais. En général, il est tout le temps vendu avec.
C'est vrai qu'on la jette, celle-là.
Bah, tout le monde la jette. Mmh. Et je peux vous garantir, moi, j'ai même un plat au restaurant, un plat signature, que je sers donc en clientèle, carrément à base de ça.
Ah ben non, c'est incroyable.
J'en parle en aparté. Vous savez, il y a la partie, le tronc là du chou-fleur, la partie blanche, la bien dure, là qui est en dessous, là le tronc. Bah, je l'utilise et j'en fais des ravioles que je farcis avec une crème de chou-fleur. Et les feuilles vertes qu'il y a autour de ce chou-fleur, je les utilise aussi, je les cuis un petit peu, je leur donne une petite note, et je réalise une petite vinaigrette à la moule marinière, lorsque c'est la saison bien évidemment. Donc je suis sur un produit entièrement chou-fleur dans tous les états. Je prends des pickles de chou-fleur cru, enfin des pickles de chou-fleur.
La totale, on ne jette rien.
Je me fais vraiment un plat full chou-fleur, et une petite râpée de chou-fleur, une semoule de chou-fleur que j'assaisonne avec un peu d'huile d'argan.
Du faux couscous,
huile d'argan et raisin. Voilà, et ça c'est mon plat signature.
Incroyable.
Donc, on est sur des choses un peu, voilà, on part sur des notes un petit peu orientales avec l'huile d'argan, le raisin et une note un petit peu puissante avec la moule marinière, un peu iodée. Bon voilà, tout ce que j'aime. Mais aujourd'hui, je vous propose pas ça, bien évidemment. Rien à voir. Aujourd'hui, je vous propose d'attraper ces feuilles vertes. Avant d'utiliser le chou-fleur, premier réflexe, on détache toutes les feuilles vertes. On les détache. On fait bouillir de l'eau, bien salée. En général, on parle de 10 grammes par litre d'eau. Donc, si vous mettez 2 litres d'eau, mettez 20 grammes de sel. Voilà.
Mais le sel va permettre de garder un peu de croquant et de garder la couleur aussi.
Vous avez tout dit.
Alors, si vous voulez vraiment garder la couleur, un petit peu de bicarbonate de soude aussi dans l'eau de cuisson, ça vous garde les trucs bien.
Et
les haricots verts, c'est magique.
À chaque fois, j'en ai déjà entendu parler. Je crois que c'est même vous qui m'en aviez parlé, et je l'ai à chaque fois, mais je le fais jamais. Je suis à l'ancienne avec le sel, mais je testerai ça pour voir s'il y a une réelle différence. Donc la recette.
Parce que vous ne croyez pas en plus.
Non, mais voir si, Manu, normalement, malheur à moi. Bah alors. Mais ce qui se passe, c'est que il y a trois types de cuisson pour ces chou-fleurs. On peut les manger crus directement et les faire sauter au wok sans même les blanchir à l'eau.
Là, on mangeait des feuilles vertes.
Des feuilles. Et là, je les ai ni découpées ni quoi que ce soit. Je les ai juste arrachées pour l'instant du chou-fleur. J'ai rien fait d'autre. Que ce soit le fleur, j'ai rien fait d'autre. Donc, je les plonge dans cette eau bouillante pendant 5 minutes pour les avoir al dente. 5 minutes, c'est-à-dire c'est croustillant fondant. C'est croquant fondant, on va dire. Voilà. Et si vous les laissez bien fondant, c'est 7 minutes. Voilà, à peu près. Moi, je parle de 5 minutes parce que c'est intéressant avec 5 minutes. Et une fois que c'est bouilli, pendant 5 minutes, chrono, hein, pile poil, vous les passez dans une eau froide. ça va fixer la couleur. Si vous les mettez dans une eau qui est pas froide,
et ça va arrêter la cuisson.
Ça va, voilà, et ça va arrêter
parce
la cuisson.
On va les recuire là après.
Ça va les recuire et puis ils vont prendre une couleur un peu verdâtre qui n'est pas très très appétissante. Nous, on veut un vert bien vif. Donc, ayez le réflexe de préparer une eau avec des glaçons, un bac avec des glaçons. Si vous n'avez pas de glaçons, bah vous mettez un bac d'eau et vous le mettez au congélateur. L'eau va refroidir. Donc, tout simplement. Et ben une fois que c'est fait, ben la recette elle est quasi faite parce que ce chou-fleur, ce verre de chou-fleur, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Une petite salade, vous émincez ça avec une salade, une petite macédoine, un peu façon mayonnaise avec de la chair de poisson, avec d'autres légumes, genre comme une macédoine, ou alors comme moi à la thaïlandaise. J'aime bien les inspirations thaïlandaises. Ce que je fais, c'est que je verse un tout petit peu d'huile d'huile de coco dans un wok ou dans une poêle. Mon verre de chou-fleur qui a été cuit est parfaitement émincé comme on émincerait je sais pas moi un blanc de poireau, hein, vous voyez ce que je veux dire,
en gros bout
voilà, bien émincé. On pouvait le faire comme un oignon émincé, c'est vous qui décidez de la taille et du calibre. Et ben je fais sauter ça avec une pointe de curry. Ça peut être du curry jaune, du curry rouge, du curry vert, ça dépend de ce que vous avez à la maison. Vous pouvez ne pas mettre de curry, moi j'aime bien mais c'est pas obligatoire. Et une fois que c'est fait, on rajoute dans ce petit verre de chou-fleur qui est en train de sauter à la poêle à peine 10 secondes, on rajoute soit de la volaille, soit du bœuf, soit du poisson qui est déjà cuit, hein, à côté. Hein. Tout est déjà prêt, on les a mis de côté. Mais avant de se faire, je verse un peu de lait de coco. Avant de rajouter tout ça sur mon curry,
ça va lier un petit peu les saveurs.
Je rajoute du lait de coco dans mon verre de chou-fleur et là, je rajoute seulement après mon lait de coco. Là, je rajoute mes protéines.
D'accord.
Voilà, mes protéines.
Alors, est-ce que vous savez, chef Edzem, que quand, sans le savoir, parce que vous dites, en plus, moi, je le fais à la thaïlandaise, vous avez fait quelque chose qui ressemble beaucoup à un plat thaï.
Oui. C'est...
Pourquoi ? Parce qu'en Thaïlande. Alors, c'est pas avec le chou-fleur, mais c'est dans la même famille. C'est avec le brocoli. Nous, on jette, hein, le brocoli, c'est un pied beaucoup plus long.
Exactement.
Il y a les fleurs, les sommités au bout, hein, qu'on mange. Et les Thaïlandais, ils mangent aussi le tronc et les feuilles. Et on appelle ça le kana.
Le kana, ouais.
Et donc, il y a un plat qui s'appelle le pad kana, c'est le kana sauté. Alors, on le fait sauter à la sauce d'huître et on peut rajouter du poisson séché.
On peut
rajouter plein de trucs.
Et ben, c'est exactement ce dont je me suis inspiré.
Ah, ben
effectivement.
Voilà.
De toute façon, la cuisine, c'est comme ça qu'on trouve aussi des idées de recyclage. C'est des choses qui se ressemblent, effectivement. J'ai oublié de vous préciser d'ailleurs, avant de mettre quand vous lancez vos petits émincés de verre de chou-fleur pré-cuit, moi, je rajoute toujours un peu de sauce soja pour saler. Je mets de la sauce soja, ça va saler mon verre de chou-fleur. Et là, je rajoute mon curry. Et une fois que c'est fait, c'est là que je mets ma crème de coco. On peut mettre de la crème de soja ou de la crème liquide, hein, bien évidemment. Et c'est une fois que ma crème est entièrement versée, je veux que ça recouvre, hein. Faut vraiment que ça recouvre. On veut une belle sauce. Là, on verse sa volaille ou son bœuf. Et tout va se jouer là. Écoutez bien. Si vous faites ce que je dis, je pense que vous allez vivre un grand moment. Une fois qu'on a rajouté nos viandes, à ce moment-là, on va râper un petit peu d'ail, donc frais, hein, à la fin de la cuisson, c'est pas au début de cuisson, c'est en fin de cuisson, c'est-à-dire au moment de passer à table, on se râpe un peu d'ail, un peu de gingembre. On est sur l'équivalent d'une gousse d'ail pour la même quantité en gingembre. Et on le râpe au-dessus. On rajoute un zeste de citron vert et un mélange de coriandre et basilic haché.
Ouais, coriandre, basilic thaï, même si vous avez.
Basilic thaï, si vous avez, on trouve facilement, effectivement. Et on va voir la fraîcheur du basilic et le caractère un petit peu de la coriandre. Donc les deux jumelés plus le zeste de citron vert, ça marche du feu de Dieu. Si vous avez un peu d'huile de sésame qui traîne, une petite goutte d'huile de sésame en fin de cuisson. Si vous en avez pas, bah des graines de sésame tout simplement. On verse ça avec un riz et je peux vous dire, vous allez vivre un moment.
On va se régaler
avec des feuilles de chou-fleur.
C'est un truc 100% vegan en plus. Hein.
C'est 100% vegan, sauf si on met de la volaille ou du bœuf.
Ah oui, ça c'est vrai. Oui. Alors ce plat là dont je parlais là, le pad kana de la cuisine thaï, ça existe aussi dans la cuisine chinoise. Et c'est vrai que j'avais vu une fois sur TripAdvisor un client qui disait oui, j'étais dans un restaurant chinois, j'ai commandé des brocolis à la sauce d'huître et on m'a servi que des feuilles. Et en fait, c'est parce que le terme pour brocoli dans la langue chinoise, ça représente les feuilles qu'on fait sauter comme ça.
D'accord.
Voilà. Et donc, ça s'appelle kailan en chinois.
Hein, d'accord.
Le nom du plat. Et ça, on le fait dans la majorité des cas avec de la sauce d'huître. Et ça aussi, c'est super bon.
Et bon, on peut mettre de la sauce d'huître, hein, dans la recette au lieu de la sauce soja, pour rajouter bien évidemment des cacahuètes, pour rester proche de tout ça, de les
noix. On le pimp comme on le souhaite.
Vraiment le croquant. Mais j'insiste pour que cette recette soit faite parce que c'est un de mes gros coup de cœur sur le recyclage avec ces feuilles de chou-fleur. Pour moi, c'est le gros coup de cœur parce que qu'est-ce qu'elles vont développer ces feuilles de chou-fleur? On n'en a pas parlé, le goût que ça a. de ce verre de chou-fleur, eh ben, c'est un goût de chou-fleur, mais en plus adouci.
D'accord.
Ça veut dire que, au début, si vous voulez manger cru, ça va être amer, bien évidemment, puisque c'est cru. Mais une fois blanchi dans l'eau, vous allez goûter un morceau. Avant de faire la recette, goûtez un petit morceau, une fois blanchi pendant 5 minutes dans l'eau, c'est-à-dire bouilli. Moi, j'utilise le terme blanchi, mais on parle de bouillir pendant 5 minutes. Et goûtez un morceau cru. Vous m'en direz des nouvelles.
Oui, puis en plus, en général, quand on prend le verre, c'est là où il y a la chlorophylle, et la chlorophylle, c'est là où il y a les nutriments, les vitamines.
Ben oui, bien sûr, c'est ça, c'est ça la cuisine.
Bon, ben vous nous avez encore fait saliver, mon cher chef Enzem. On va se retrouver, non pas demain, puisque demain ce sera le tour du monde, mais on se retrouve lundi et mardi pour les deux dernières. En attendant, on va faire une petite pause et puis on reviendra avec notre invité du jour et nos influenceurs food pour leurs adresses secrètes.
Bon appétit.
Pour faire les derniers tours du Ramadan. Ouais, bon appétit. Ouais. Merci Nabil, à demain.
À
lundi.
Chacun son tour revient dans un instant.
Suivez Chacun son tour avec le renard, numéro 1 par tradition.
Beurre FM, 18h-19h, Chacun son tour avec Manuel Mariani.
De retour dans Chacun son tour, j'allais dire le tour du monde. Non, le tour du monde, ce sera ce week-end, samedi et dimanche pour les deux dernières du Ramadan. Mais aujourd'hui, c'est la dernière de Chacun son tour pour cette année.
Déjà.
Eh oui. Eh oui. Alors la voix que vous entendez, c'est Adi de Too Foodies in Paris.
Bonsoir.
Qui est avec nous physiquement. Et puis tout à l'heure, nous serons au téléphone avec Ali du Guide du Team de Paris et Amel de Amel in the City. Mais nous avons notre invité du jour comme chaque jour. Et aujourd'hui, je suis ravi parce qu'on les a accompagnés dès le début de leur initiative, notamment avec Marine Mandrila qui est cofondatrice du Refugee Food Festival. Et donc aujourd'hui, c'est Valentine Pia qu'on accueille. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Alors c'est vous la porte-parole du Refugee aujourd'hui.
Oui, c'est ça, je représente l'association.
Voilà. Alors, le Refugee Food Festival, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore, c'est un projet qui vise à aider l'insertion des réfugiés, quel que soit le pays d'où ils viennent, et à les insérer dans la société française par la cuisine. Est-ce que c'est bien résumé ?
C'est très bien résumé, c'est ça. C'est une association qui vise à sensibiliser à l'accueil des personnes réfugiées dans leur pays d'accueil en utilisant la cuisine comme manière en fait de se rencontrer et d'échanger. Et l'objectif, c'est aussi de favoriser l'insertion professionnelle des réfugiés en France et puis de valoriser un peu les talents, les patrimoines culinaires des personnes qui arrivent. Et c'est vrai que, comme tu le disais, on fait le Refugee Food Festival. C'est surtout pour ça qu'on est connu. C'est un événement culinaire solidaire qui a lieu tous les ans en France au mois de juin.
Oui, en France et pas que, hein, parce que petit à petit, le Refugee Food Festival s'est internationalisé. Et d'ailleurs aujourd'hui, très vite, d'ailleurs le UNHCR, qui est l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, donc qui dépend de l'ONU, s'est associé au projet et est devenu un partenaire actif du projet, ce qui a aidé à l'internationalisation du projet. On peut dire que c'est presque devenu une franchise humanitaire, le Refugee. Dans d'autres pays.
C'est-à-dire
que effectivement sous le patronage du Refugee français, d'autres personnes qui ont envie de s'impliquer dans d'autres pays dupliquent le concept.
Oui, tout à fait. C'est des bénévoles qui organisent le festival dans leur ville, que ce soit en France ou dans les autres pays où il a lieu, et qui le principe du festival, c'est de proposer à des restaurateurs dans une ville, une dizaine de restaurateurs, entre 5 et 10, d'accueillir un cuisinier réfugié dans leur cuisine le temps de quelques services pour collaborer sur un menu à quatre mains qui met en valeur la cuisine de la personne. Et c'est vrai, comme tu dis, on est principalement en France. Tu vois, cette année, on aura 10 villes de France participantes et aussi Genève en Suisse. Il y a eu des années où on était en Europe, même en Amérique du Nord. Le festival a eu lieu dans 11 pays jusqu'ici. Wow.
Alors, il va y avoir un grand dîner, si vous voulez participer, aider le Refugee Food Festival. Il va y avoir un grand dîner auquel je vous recommande de participer. Alors, quel est le principe de ce dîner? En fait, on s'inscrit, on paye son dîner et ça aide à insérer des réfugiés, c'est ça?
Oui, alors en fait, c'est vraiment à la lumière de ce qui se passe en Ukraine qu'on a eu envie de se mobiliser là, à peu près en ce milieu d'année. On avait déjà fait des dîners similaires à l'occasion, malheureusement, de la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. À partir de la rentrée, on avait fait des dîners dans un lieu qui s'appelle Grand Contrôle à Paris, 12e. Le principe, c'est le même.
Il y a un restaurant permanent hein, du Refugee Food Festival avec ses chefs réfugiés qui ont été formés dans des restaurants. Alors, le premier à s'être impliqué, je le connais bien, c'est un copain, c'est Stéphane Jégot, hein, qui a notamment formé Nabil Attar, hein, qui vole de ses propres ailes aujourd'hui à Orléans et qui a un restaurant qui s'appelle Narenge, qui marche très très bien. On est super contents. Et d'ailleurs, on le salue, hein, s'il nous écoute, Nabil, je sais qu'il écoute de temps en temps Beurre FM. Et c'est vrai que beaucoup de chefs issus du Refugee Food Festival, avec la formation qu'ils ont reçue dans les restaurants des chefs partenaires, puisqu'ils sont accueillis par des restaurateurs, certains ont ouvert leur propre restaurant ou deviennent traiteurs à domicile.
Exactement. Oui, et ce, dans différentes villes. C'est vrai que la particularité à Paris, c'est qu'on a pu créer un restaurant qui s'appelle La Résidence, qui est à Grand Contrôle, ouais. Et dont les chefs sont réfugiés. Mais d'ailleurs, la brigade aussi est réfugiée. Et l'objectif, c'est aussi de leur permettre de se former en travaillant. Mais concernant les chefs, oui, certains sont passés en résidence dans notre restaurant et ont ensuite monté leur entreprise. Je pense à Narenge, mais c'est aussi vrai pour d'autres personnes, comme Magda Gaganava, qui est une cuisinière géorgienne,
avec qui on avait fait une émission super ici, et qui a ouvert aussi un petit peu plus tard, un peu plus récemment, son restaurant. Et alors, la cuisine géorgienne, c'est surprenant, mais c'est très intéressant aussi comme cuisine. Vous savez à peu près, vous tenez des statistiques, combien de chefs passés par le Refugee ont ouvert leur restaurant ou un service de traiteur à domicile ou de plats emportés ou en livraison, à peu près, hein, je ne vous demande pas des stats précises.
À peu près, je dirais entre 10 et 20 pour faire large. Après,
c'est énorme.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement la seule ouverture possible après avoir participé au festival. Quand on est un cuisinier réfugié, qu'on a été chef ou pas d'ailleurs dans son pays d'origine, on peut avoir fait le festival et avoir envie de se lancer dans la cuisine en cherchant du travail en restauration, en reprenant une formation. Dans notre association, on fait aussi des formations professionnelles en cuisine pour les personnes réfugiées, aussi pour leur donner accès à des opportunités en cuisine.
Voilà, alors certains, comme Magda Gaganava, arrivent en ayant déjà des compétences culinaires, d'autres pas du tout. On parlait de Nabil Attar tout à l'heure, hein, le restaurant Narenge à Orléans. Lui, il était banquier, hein, donc rien à
et
voir.
Et Magda était dentiste.
C'est ça. Oh, ouais. Mais elle cuisinait déjà.
Elle cuisinait, oui. Elle avait une passion pour la cuisine.
Oui. Alors, quelle est la date de ces dîners auxquels les gens peuvent participer?
Alors,
et le lieu?
Concernant précisément le dîner du 2 mai, c'est ce lundi et ce sera à Paris, à Grand Contrôle. La particularité, c'est que c'est un dîner de levée de fonds pour les exilés qui arrivent en France, les Ukrainiens, mais aussi tous les autres, puisqu'il y a aussi beaucoup de personnes de différentes nationalités qui fuient des conflits partout dans le monde et qui sont amenées à s'intégrer dans un pays d'accueil comme la France, par exemple. Lundi, l'idée, c'est environ 9 chefs qui viennent à Grand Contrôle bénévolement pour produire un superbe menu. Et l'objectif, c'est de lever un maximum de fonds pour reverser à France Terre d'Asile de l'argent qui permettra de financer des programmes d'intégration des réfugiés. Alors, au menu, on aura aussi des spécialités ukrainiennes, puisqu'il y a des chefs ukrainiens et il y a aussi des chefs parisiens qui sont engagés, qui sont impliqués aussi sur la scène de la restauration solidaire. C'est un dîner qui a l'initiative d'Alexandre Marchand. Vraiment, le message, c'est il reste plein il reste des places et vous avez la possibilité de venir goûter un menu assez exceptionnel, 9 chefs qui collaborent et en même temps de financer l'intégration professionnelle des réfugiés. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas, c'est à 18h30, on commence par une table ronde avec des personnalités assez importantes. On a par exemple un premier retour sur les dîners qui ont été faits pour l'Afghanistan.
Oui.
Aussi des personnes qui sont là pour donner un éclairage sur la situation des réfugiés. Il y aura la porte-parole du HCR, le Haut Commissariat à l'insertion des réfugiés.
Alors, oui, d'accord. Oui, c'est pas l'UNHCR qui l'a, et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.
Non, pardon,
oui.
c'est moi qui m'emmêle les pinceaux, mais c'est bien le HCR, comme tu dis.
D'accord.
Céline Schmitt, qui est la porte-parole du HCR. Il y aura aussi Alain Régnier de la DIER, Delphine Rouillot, qui est la directrice de France Terre d'Asile, et bien sûr des chefs, comme la chef ukrainienne Nika Lovoska, qui va aussi cuisiner dans le cadre de ce dîner. Donc là, vraiment, c'est d'abord une table ronde pour parler de l'exil et de la cuisine des personnes réfugiées et des enjeux de l'accueil et de l'intégration. Et à partir de 20h, il y a le dîner. Bien sûr, si vous n'avez pas le temps de venir à 18h30, vous avez la possibilité de prendre vos places uniquement pour le dîner.
Voilà, alors Grand Contrôle, c'est dans le 12e arrondissement, hein, pas très loin de la Coulée Verte. Alors, on y arrive par le... déjeuner. L'adresse exacte, c'est 80 rue du Charolais, Paris 12e.
C'est juste à côté de la gare
avenue
de Lyon.
Avenue Doménil, gare de Lyon. Hein. C'est oui, ça. C'est entre la gare de Lyon et l'avenue Doménil, très
oui,
précisément.
C'est ça.
Voilà. Alors, comment dire, le Refugee Food Festival, quelque part, ça réconcilie un petit peu, parce que c'est vrai que souvent les réfugiés ont une mauvaise image, on les prend souvent pour des réfugiés économiques, etc. Ça permet aussi de réconcilier un petit peu les gens avec le principe des réfugiés et ça rassemble les citoyens et les réfugiés un petit peu.
C'est vraiment l'objectif, c'est de donner un espace de rencontre et d'échange autour de la cuisine pour qu'on puisse parler d'autres choses ensemble, mais de quelque chose qui nous rassemble tous, qui nous intéresse tous, qui est la cuisine. Et en même temps, ça permet à des personnes, même si elles n'ont pas un niveau de français énorme au départ, de parler d'elles, d'initier un échange. Et dans les restaurants, concrètement, les personnes qui viennent manger, non seulement elles goûtent un menu qui est différent, mais elles peuvent aussi échanger avec le cuisinier réfugié qui est là dans le restaurant, qui vient présenter son plat à la fin. Et c'est vraiment aussi un espace d'échange. Sur les tables des restaurants, on distribue aussi des supports pour expliquer les questions d'exil, les questions d'intégration et avec aussi des témoignages des personnes qui sont arrivées en France, qui ont obtenu un premier emploi en restauration et qui maintenant sont intégrées aussi grâce à la cuisine.
Ouais, donc un rôle actif avec les réfugiés en termes de réinsertion et un rôle d'information aussi hein, et de sensibilisation auprès des gens pour surtout en ce moment hein, avec les l'Afghanistan. Alors est-ce qu'il y a une saisonnalité c'est un peu dur de parler de ça mais comment dire est-ce qu'il y a une saisonnalité au niveau des réfugiés en fonction des conflits des problèmes de famine ou autres qu'on peut trouver dans le monde. Est-ce que de temps en temps, bon là en ce moment j'imagine qu'il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens, il y a eu des réfugiés afghans, est-ce qu'il y a eu une période irakienne, une période autre?
Alors, on peut dire qu'il y a des flux de personnes originaires de tel ou tel pays plus importants à certains moments, effectivement liés au calendrier aux dates des conflits. Malheureusement, il n'y a pas de saisonnalité au sens où à un moment donné.
Oui, j'ai employé ce terme qui est un peu tiré par les cheveux, mais
oui,
disons
ce
que c'est vrai
dire,
quand on voit un petit peu les pays d'origine des chefs du Refugee Food Festival, on voit qu'en fait on ne parle pas de tout dans les médias, mais il y a des crises partout et en permanence. Hein, vous avez des réfugiés d'Afghanistan, certes, mais aussi d'Érythrée, d'Iran, de Somalie, de Syrie, évidemment, mais Sri Lanka, Côte d'Ivoire, l'Inde. Oui. Donc il y a beaucoup de pays qui ne sont pas forcément des pays en guerre, où il n'y a pas forcément des crises visibles, mais dans lesquels il y a effectivement des réfugiés.
Il y a des conflits qui ne sont pas très visibles parce qu'ils ne sont pas très médiatisés. On pense par exemple au Yémen. Qui subit toujours une situation catastrophique, on en parle moins. Les nationalités principales qu'on voit en ce moment, cette année, de personnes qui obtiennent le statut de réfugié, effectivement, c'est des personnes afghanes, mais c'est aussi des personnes soudanaises. Ça peut être des personnes érythréennes, je ne sais pas si vous savez, mais en Érythrée, c'est une véritable prison à ciel ouvert.
Ouais,
absolument infernal.
Très, très compliqué, avec beaucoup de famines, beaucoup de maladies.
Voilà.
Et puis d'ailleurs, on fait beaucoup d'émissions avec une association qui s'appelle LIFE, et qui justement intervient beaucoup dans tous ces pays dont on parle peu, mais qui ont vraiment besoin d'aide. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de vous présenter les gens de LIFE, hein, parce que je suis sûr qu'il y a des choses communes à faire intéressantes peut-être avec vous.
Avec plaisir.
Voilà. Alors, Tarek, si tu nous écoutes, je te donnerai les coordonnées du Refugee Food Festival. Voilà, alors on va faire une petite pause. Vous restez avec nous
hein,
et puis on va vous emmener nous voyager un petit peu mais dans Paris avec nos influenceurs food. On se retrouve après une petite pause.
Chacun son tour revient dans un instant.
Suivez Chacun son tour avec le renard numéro 1 par tradition.
Beurre FM 18h 19h Chacun son tour avec Manuel Mariani.
De retour dans Chacun son tour avec notre invité du jour, Valentine Pia, c'est ça, du Refugee Food Festival, je vais y arriver. Alors on a parlé de ce dîner-là, hein, lundi 2 mai, pardon. 1er mai c'est dimanche, et c'est la fête des mères en même temps. donc à Grand Contrôle, donc la billetterie.
La billetterie est en ligne, vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux de Refugee Food. Donc Refugee, R-E-F-U-G-E-E, plus loin, Food.
Food, comme la food.
C'est ça.
Ok, super. Donc, vous pouvez vous inscrire, il reste de la place et vous allez passer un super moment. Alors, nous allons commencer tout de suite avec les adresses secrètes de nos influenceurs. Nous ont rejoint par téléphone Ali du Guild Ultime. Bonjour Ali.
Salut tout le monde.
Comment ça va ?
Ça va bien et toi ?
Bah, ça va pas mal. Bon, un peu triste, c'est la dernière de cette année. Mais...
Bah oui, on est tristouille, mais j'espère que ça va revenir.
Ouais, mais on va refaire des trucs tous ensemble
avant
l'année prochaine. Hein. Et puis, nous avons également avec nous Amel de Amel in the City. Bonjour Amel, comment ça va ?
Bonjour à tous.
Bonjour Amel. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va commencer par vous, Amel.
Ça marche.
Vous nous emmenez dans le 13e rue Broca, le dicton.
Oui. Exactement. Donc, rue Broca, alors c'est pour ceux qui ont la nostalgie des contes de la rue Broca. Juste à côté, on a, le pont Broca, il y a les fresques des contes. Et à côté, il y a un petit restaurant, Halal, qui s'appelle Le Dicton, qui propose deux menus, un menu brasserie et un menu burger.
Ouais, ben le menu et brasserie, c'est même de la brasserie, un petit peu, c'est presque bistronomique un petit peu. Hein, c'est,
Oui, en fait, c'est le chef fait tout, c'est tout fait maison, c'est de la bonne qualité, ils font attention à ça. Moi, j'ai aimé, on a testé les deux en fait, j'ai testé le burger et le menu brasserie, et je trouve que c'est pas cher du tout, parce que pour 16€, on a entrée plat ou plat dessert, et 19€, c'est entrée, plat et dessert, même le soir. Donc je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix.
Ouais, le smash burger à 9€, c'est quand même pas très cher.
Oui.
Les entrées autour de 5€, et les desserts à 4€, maison aussi, panna cotta, cheesecake, tout ça, c'est pas mal, hein.
C'est pas mal du tout, et le pain est fait maison, donc quand on rentre on sent les effluves du pain. Voilà, c'est une nouvelle adresse, ils ont ouvert en septembre, ils essaient de lancer leur ce restaurant. La rue, elle est toute pavée, elle est mignonne comme tout. Voilà, moi je
ouais, c'est un quartier très sympa, ouais. Très très sympa, ouais. Le quartier. Et puis en plus, bon, ils vont peut-être pas apprécier qu'on dise ça aux auditeurs, mais si vous passez par l'ex La Fourchette, The Fork, il y a certains jours, vous pouvez avoir 20% de réduction. Donc,
c'est ça.
Allez-y. Hors menu, évidemment. N'hésitez pas à aller découvrir Le Dicton. C'est 69 rue Broca à Paris 13e. Est-ce que j'ai les jours de fermeture? Je dois avoir ça, moi, quand même. J'ai ça en général. Ben, c'est ouvert tous les jours, en plus, figurez-vous.
Oui, c'est un petit restaurant, c'est petit et ils sont très sympas. Ils vous accueillent, ils nous ont super bien accueillis. Voilà, ils sont super sympas et ils sont très contents de nous recevoir.
Et puis le samedi, bah, jusqu'à 1h du matin et le vendredi aussi. Donc pour les couches tard comme moi, c'est parfait.
Et c'est aussi, ils font des ventes à emporter et je crois qu'on les trouve sur Deliveroo aussi.
Oui, tout à fait, Deliveroo. Et puis de toute façon, vous pouvez aller sur leur site internet pour trouver toutes les... Non, d'ailleurs, disons, ils n'ont pas de site internet, donc je dis des bêtises. Non, mais effectivement, sur Uber Eats, c'est Just Eat et c'est Uber Eats et Just Eat, voilà.
Voilà. Et voilà, donc je me suis dit que c'était pas mal de présenter cette adresse. On a présenté différents plats durant ce mois de Ramadan et différents restaurants. Et celui-là, c'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix qu'on ait vu.
Eh ben tant mieux. Voilà. Ça a l'air effectivement d'être une bonne adresse. On se regarde avec Adi, on va peut-être aller tester ça un jour. Good job, Amel, on ira de votre part. Et puis avec Ali aussi, oui. Ali. Bon, oui, mais Ali, on le voit pas hocher la tête, mais on imagine.
Ah oui. Et dans la bouche.
Bon. Et ben, puisqu'on parle d'Adi, justement, c'est à vous, Adi, Two Foodies in Paris.
Super.
Vous allez nous parler d'un restaurant qui s'appelle le Murmure Fracassant.
Exactement, le Murmure Fracassant dans le 15e. Alors déjà, on veut parler du cadre, parce que dès qu'on arrive à l'intérieur du restaurant, c'est super lumineux, on a plein de petits canapés, plein de petits détails originaux aussi dans la décoration. On a par exemple l'entrée des toilettes, où c'est une cage d'oiseaux, enfin très jolie.
Ouais, alors faut dire que c'est une brasserie, mais oui. C'est une brasserie un peu girly quand même.
Hein. Pas trop girly, franchement ça a du
non, mais c'est un cadre cosy, quoi.
Oui,
c'est sympa.
Oui, très très. Très cosy. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit coin vinyle que j'ai vu dans aucun autre restaurant personnellement. Donc c'est un coin avec des disques où on a une collection du gérant, mais également des disques que peuvent apporter les clients.
Je peux ramener mes vieux 45 tours,
oui,
des années 80.
Ça, tu pourras manger, tu pourras manger sur ta meilleure musique. Donc vraiment, on a beaucoup aimé cette petite attention de la part du gérant.
Et côté nourriture maintenant, déjà le menu, il se trouve sur un papier journal, donc on a beaucoup aimé déjà l'esprit. On a une carte qui est très riche, avec plein de belles associations et des plats qui sont vraiment bien présentés. Si on peut vous conseiller, par exemple, en entrée, on a mangé les gambas panko bien croustillants avec une petite mayonnaise, piment d'Espelette, avec une petite salade avec du beurre de cacahuète dedans. Enfin, c'est des associations qu'on n'a jamais vues personnellement, mais qui nous ont vraiment conquises avec des belles qualités aussi, belles quantités. Des cocktails exotiques, bien frais, et en dessert, un beau pain perdu aux poires avec du poivre de Sichuan.
Ouais, alors, un peu créatif, un peu fusion même, hein. Il y a des ravioles de tartiflette et poires croquantes, par exemple. Et, oui, sinon des salades un petit peu exotiques, Thaï, New Orleans, soba.
Il y a de belles influences, dans la carte.
Ouais, c'est sympa. Et puis, on peut y aller, comme l'adresse d'Amel, on peut y aller avec les enfants, les burgers.
C'est ça.
Voilà.
Moi, je la connais, cette adresse, et c'est très, très sympa. Et on peut y aller avec les enfants, parce que si tu allais avec des enfants qui étaient ravis, surtout d'aller aux toilettes.
Oui.
Parce qu'on entend les oiseaux.
Oui, c'est ça, on entend les oiseaux en allant aux toilettes. Donc, vraiment, c'est surprenant, mais c'est très agréable.
Bon, encore une adresse kid-friendly.
Oui. Exactement. Mais pas que, aussi pour le bureau.
Oui, il y a plusieurs ambiances.
Voilà, vraiment,
trois salles, trois ambiances, comme on dit chez nous.
C'est ouvert à tous. Et l'adresse, du coup, qu'on peut rappeler, c'est le 108 rue de la Convention, dans le 15e.
Absolument. Et puis là aussi, il y a des horaires sympas. Hein. C'est ouvert 7/7 et c'est non-stop. Hein. Vous pouvez arriver au petit déjeuner le matin à 8 ou 9 heures. Hein. Et puis, c'est jusqu'à minuit ou voire 1 heure du matin, vendredi et samedi.
Des bons horaires, vraiment.
Ouais.
Des bons horaires.
C'est parfait. Merci beaucoup, Adi, pour cette adresse. Et nous allons passer à Ali, le guide ultime. On a gardé le guide ultime pour la fin.
c'est super gentil, merci beaucoup.
Dernière chronique de la saison, Ali.
J'ai la pression, non, je rigole, je vais plus.
Attention, hein. Alors vous allez parler du bar tabac qui est à côté de chez moi, le Renard Café, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Exactement, voilà, un petit bar tabac, non je rigole, pas du tout ça.
C'est un homonyme.
Ouais, c'est un homonyme, mais c'est pas du tout le même délire. En gros, c'est un café avec une ambiance japonaise. En gros, ça s'appelle le Renard Café et c'est un mix en fait entre une pâtisserie qui s'appelle Tomo, qui est une pâtisserie traditionnelle japonaise, et le Renard la librairie.
Bah, je sais pas si vous avez entendu en bruit de fond, mais Adi approuve.
Oui.
super.
Tout le monde approuve.
Et c'est un mix en fait du coup avec cette pâtisserie et une librairie qui s'appelle le Renard Librairie où ils vendent des mangas et ils donnent des cours de calligraphie, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Et donc, les deux, ça a donné le Renard Café. Donc, tu peux boire des bubble tea, tu peux manger des onigiri, des dorayaki, tout en lisant ton petit manga.
Café culturel, un peu, quoi. On peut dire que c'est une librairie café, quoi, un peu, non? C'est ça?
Exactement. C'est un peu ça. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont un peu fans de manga, de Japon, etc. Et ben, si vous avez déjà regardé un film de Miyazaki, par exemple, dans votre vie, c'est sûr que vous en avez déjà vu un, Le Voyage de Chihiro, Mononoke. Voilà, si ça vous parle, allez là-bas parce que franchement, c'est magnifique. En fait, c'est une petite reproduction du château ambulant, en fait, d'une scène du château ambulant, un de mes films préférés de Miyazaki. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, c'est une émission de food. Mais voilà, j'adore ce café, très bonne ambiance, très sympa. Et puis tu peux te poser une heure, deux heures, lire ton manga. Avec une vraie pâtisserie traditionnelle japonaise. Et voilà, c'est super bon.
Ouais, d'ailleurs, ça fait la déco fait très manga aussi. C'est coloré, la déco, chez eux.
Ah oui, complètement. Oui, c'est un parti pris. C'est très, très coloré. C'est très Instagrammable. Pour le coup, si vous voulez faire des photos, c'est parfait. Mais c'est aussi un très beau cadre en soi. Pas forcément besoin de prendre des photos. C'est aussi très beau en soi.
Ouais. Alors, aussi, ce qui est très Instagrammable aussi chez eux, c'est les bubble tea, les desserts. Hein, parce que c'est fluo, les couleurs. Hein. Les pâtisseries rose fluo, les bubble tea vert radioactif.
Attends, t'es sûr que t'as regardé le bon truc?
Non, je suis sur leur photo. Mais c'est vrai, c'est très coloré, quoi. C'est sympa, c'est assez flashy.
Ah oui, le vert du matcha, forcément, dans le bubble tea, il pète.
Ouais, ouais.
Le dorayaki, il est avec le rouge de la pâte de haricot rouge à l'intérieur. Donc forcément, ça me donne envie. Je vais arrêter d'en parler, ça me donne trop envie, là. Ouais. Je vais y retourner demain.
Et puis, c'est une adresse qui est éco-responsable, puisque, par exemple, quand on prend à emporter, tous les emballages sont 100% recyclables. Et puis,
d'ailleurs,
les emballages sont fabriqués avec des fibres de riz, mon cher Ali.
Bah, voilà, je peux manger mon emballage, ça veut dire.
Si vous avez un truc que vous n'avez pas sur vos
avec
adresses, vous me demandez.
Une sauce soja.
Vous pouvez même manger l'emballage, ouais, les fibres de riz, c'est ça. Non, mais j'ai pas parlé de galettes de riz, attention. Hein. Et puis, et puis il y a des pâtisseries véganes aussi, hein, si ça vous intéresse. Hein,
qui sont... Oui, il y en a pour tout le monde, vraiment. C'est vegan. Les onigiri, c'est que du poisson à l'intérieur, c'est du thon ou du saumon. Et vraiment, c'est de la. Enfin, c'est pas des onigiri classiques dans le sens où même le choix du riz. Et très très bien fait, c'est du très très bon riz en fait. Les ingrédients sont tous de très haut niveau. Et donc ça peut perturber parfois parce que par exemple pour les bubble tea, ils sont pas aussi sucrés que d'habitude. Mais c'est vraiment incroyable en termes de goût, c'est une expérience et puis c'est un voyage aussi en fait, dans un film en fait.
C'est très, très, très onirique un peu l'ambiance, hein, c'est ça. Hein.
Ah ouais, complètement. Mmh. Ouais. C'est une petite aparté dans ce monde un peu foufou. Voilà, on se retrouve un peu dans un film cocooné avec un petit manga ou quoi et un dorayaki, un bubble tea. Moi, j'adore cet endroit perso. Donc
je connaissais pas encore, mais là idem. Je vais dès que je peux à nouveau manger, puisque comme vous le savez, j'ai des petits soucis de mâchoire. dès que je peux à nouveau manger, je vais avoir quand même avec tous mes influenceurs là pendant ce mois d'émission, je vais avoir beaucoup d'adresses à tester. Hein.
Ah bah ouais. Ouais, là, ça fait beaucoup quand même.
Je vois Valentine du Refugee Food Festival qui fait oui, qui a pris des notes aussi.
Ouais, ouais, carrément. Ouais.
Donc, qui va trouver, qui a des alternatives à la résidence.
Bah hein, oui, et puis la cuisine japonaise, c'est merveilleux. Et les desserts, c'est trop bien.
Bon, et puis Ali, Amel, je vais vous envoyer toutes les infos du dîner du Refugee. Faut les aider parce qu'ils font des belles choses.
Avec plaisir.
Et puis là, on approche de la fin de l'émission, mais même de la fin du mois d'émission entier.
Ouais, c'est passé si vite.
Eh oui.
C'était un plaisir. Hein.
Ouais, c'est passé trop vite.
Bah oui, non, c'est passé vite quand même, hein, vous rendez compte.
Mais un plaisir, ouais.
Bon, et de toute façon, on refera les choses rapidement ensemble. Avant l'année prochaine, je vous réserve des surprises.
Ah. On est prêts. Et prêtes.
Voilà, Valentine, merci beaucoup d'être venue nous parler du Refugee Food Festival. On retrouve deux des chefs du Refugee Food Festival dimanche, là aussi pour la dernière. Vous faites toutes les dernières au Refugee.
Ouais.
Hein, vous faites les closings.
Non, mais c'est super, merci pour l'invitation.
Pour le tour du monde avec deux chefs, un Mauritanien et un Syrien. Donc là, on aura deux destinations en une dans un même tour du monde. Et puis demain, évidemment, là, on retrouve. Katia et Nora du restaurant Majouja, hein, tradi et trendy comme on les surnomme, et on fera évidemment de la cuisine kabyle avec elles, mais on va faire un menu de l'Aïd 100% kabyle, on va se régaler. Allez, restez avec nous à l'écoute de Beurre FM pour Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun, et puis nous on se retrouve bientôt avec tous les influenceurs et avec nos invités du jour. Et puis moi, je vous retrouve demain à la même heure et puis dimanche également pour les deux derniers tours du monde. Allez, à bientôt.
Retrouvez chacun son tour tous les jours de 18h à 19h sur Beurre FM et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
C'était chacun son tour avec le renard, semoule, couscous et préparation prête à l'emploi. Le renard, numéro 1 par tradition.